France Culture.
Ah, bonjour. J'ai travaillé.
France Culture.
Alors j'ai dit à Marianne que on avait eu des montagnes russes aujourd'hui. On vient plus. Finalement peut-être on vient, mais c'est pas sûr.
Le book club.
Alors du coup faut que je vous dise.
Ouais. Vous avez invité 15 personnes à
dîner.
Non,
mais je me suis dit du coup je vais faire du chou.
Bon, ça sent le chou. Quoi.
Dans la bibliothèque de Sonia Wider à Tartas.
L'eau est chaude.
Ok.
Un citron chaud.
Citron chaud.
Ouais.
Trois citrons chauds.
Marie Richeux.
Sonia Wider-Atherton est musicienne. Elle a choisi son instrument de prédilection, le violoncelle, pour son son. De manière générale, le domaine du son semble l'intéresser davantage que celui de la seule musique, certainement parce qu'il est plus vaste. Et lors de notre conversation, elle parlera beaucoup d'ouverture comme une manière d'être dans l'existence. Elle grandit à New York, puis s'installe à Paris avec sa famille, puis encore, elle part à Moscou pour suivre l'enseignement de Natalia Tchaïkovskaya. Quand elle doit situer quelque chose dans sa vie, lui donner une date, elle se demande toujours si c'est avant ou après ce voyage. Le temps, sinon, se dessinant pour elle davantage comme un entremêlement de formes et de mouvements que comme une frise rectiligne. Nous arrivons chez elle par un glacial soir d'hiver. Alors rien au regard de Moscou, mais quand même. Elle venait juste de sortir son enregistrement des 5e et 6e suites pour violoncelle de Bach. Dans la pièce principale, une très grande bibliothèque s'organise en zone géographique, en zone d'intensité, en lien aussi avec ses projets et ses histoires. Ainsi, une étagère abrite beaucoup de livres en lien avec l'œuvre de Chantal Akerman, dont la musique de plusieurs films a été composée par elle. Si je devais choisir un mot pour vous guider dans notre parcours des lectures de Sonia Wider-Atherton, ce serait la vie. À la fois très sérieusement, comme l'ont vécu parfois à leurs dépens des êtres et des autrices qu'elle chérit, à la fois très légèrement, tant il lui tient à cœur que le rire soit présent. On n'a pas parlé de tous les livres aimés, bien sûr, c'est toujours comme ça, mais en nous laissant partir, elle regrettait de n'avoir rien dit de sa grande histoire avec Aaron Appelfeld. Je promis de dire son nom, voilà qui est fait.
Donc le principe de cette émission, c'est de chercher les livres là où ils sont, chez les gens qui nous accueillent, oui. Sonia Wider-Atherton. Donc là, c'est le seul endroit où il y a des livres, ou il y a d'autres endroits ?
Il y a encore d'autres endroits.
Mais on est là.
Ouais, voilà.
Okay.
Sinon, ça va demander encore
d'autres aménagements.
Ouais.
Alors, on décrit celle-ci ?
On décrit celle-ci. Alors, elle a ce site particulier qu'elle est sur deux... Il y a deux rangées par case.
Ah oui, en profondeur.
Ouais, en profondeur, ouais. Parce que sinon, il y aurait trop de livres. Et bon, ranger, c'est un grand mot.
Ah si, quand même. Arrêtez.
Bah...
Non, quand... vraiment. Ayez des pensées pour les gens vraiment bordéliques.
Bah, c'est moi, donc je pense à moi. Mais là, j'ai fait... c'était très bien parce que ça m'a poussé à les sortir, à les regarder...
Juste
à les mettre
nous.
Par groupe. Ah ouais.
Ah super.
Ouais, ouais. Je me disais toujours, c'est toujours la chose, on se dit plus tard, plus tard, plus tard. Puis là, non, c'était là. Donc, il y a encore des cases où je dis, bon, ça, je sais pas, je laisse parce que vraiment, voilà. Et puis, il y a surtout des sauts, mais qui correspondent assez bien. C'est-à-dire qu'on commence un sujet, puis tout d'un coup, hop, on saute parce que j'avais pas de place et je retrouve le sujet trois cases plus loin. Donc ça, ça risque d'arriver. Mais, pour...
Mais ça veut dire que c'est une bibliothèque organisée par sujet.
Par lieu et par... Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de romans. Il y a l'Europe de l'Est. Il y a l'Allemagne. Il y a l'Italie. Après, on se rapproche. Il y a beaucoup de choses françaises. Il y a anglo-saxon. Beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est cette partie-là.
À gauche.
À gauche.
Puis ensuite, échelle. Toujours sympa d'avoir une échelle.
Il y a toujours une échelle. Et
elle
puis...
est pas bien enclenchée, sachez-le, pour le prochain qui grimpe.
Mais en fait, oui, on va la mettre là où elle devrait être, peut-être.
Voilà.
Voilà. Après, il y a les romans français, l'écriture. Pas toujours des romans, loin de là. Après, on passe au théâtre. Alors, il y a aussi des parties qui se développent parce que j'ai travaillé sur le sujet.
Mm.
Et que donc, il y a tout d'un coup beaucoup de livres. On va le voir avec Sylvia Plath, on va le voir avec... Puis aussi par passion, parce que je fais des immersions, vraiment. Je fonctionne par immersion.
Que, par exemple, il y a une grosse immersion Hervé Guibert.
Oui, c'est vrai. Là, il y a ça. Après, les bibliothèques, c'est aussi des rencontres de passion. Alors, il y a beaucoup, là, on voit de Beckett. Là, j'aime beaucoup cette traduction des sonnets de Shakespeare qui sont très liés au spectacle qu'on a fait avec Charlotte Rampling sur les sonnets de Shakespeare.
Ça, c'est André Markowitz. Et Marvin.
Ouais. Alors après, on va passer à la poésie, avec cette très grande présence de Sylvia Plath, aussi pour un... C'était aussi avec Charlotte Rampling, Sylvia Plath. Et ça fait longtemps que je lis Sylvia Plath, elle a marqué un moment très précis de ma vie. Il y a beaucoup de s'élan, voilà, tout ça c'est de la poésie, et puis...
Ce qui est conséquent quand même, c'est rare de voir autant de livres de poésie chez
c'est
les gens.
C'est vrai ? Ouais. Voilà, alors là, ici il y a beaucoup de poésie, là il y a Mandelstam, Akhmatova, Tsvetaeva, ça c'est en gros eux, et là je saute, je vous dirai après. Et puis ces deux étagères, je vous expliquerai après parce qu'elles sont différentes. Là, c'est plutôt des pensées sur l'écriture, des pensées sur la musique, des pensées comme ça qui sont mises là, pas dans une grande logique, mais qui vous aident à aborder des choses.
Mm-hmm. Plus théorique.
Voilà.
Des pensées. Ouais.
Et là, il y a de la philo, beaucoup. Où je suis bien loin d'avoir tout lu, bien bien loin, mais j'adore me plonger, essayer de comprendre. Et c'est les sortes de courants électriques que ça me fait d'ouverture, de compréhension. Puis ça ne me gêne pas, pendant quelques pages, de ne pas comprendre et puis de me raccrocher. Puis des choses qui restent, là, quand je vois Benjamin, je pense à une chose que j'arrive plus à trouver où je l'ai lue, mais qui il disait qu'il avait il était assis au restaurant, il avait un menu, il n'osait pas choisir de peur de vexer les plats qu'il ne choisirait pas. C'est quelque chose que j'adore.
C'est tendre.
Oui, c'est très tendre. Et puis, là, c'est plutôt là de l'histoire. Et en dessous, il y a les langues. Alors, il y a des dictionnaires russes-français. Et puis, ah oui, il y a une chose, quand je vois ça, il faut que... Ça a été mangé par mon teckel.
Ça, c'est une tranche de livre ne reste plus rien, sauf le tissage, quoi. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la reliure.
Voilà, ouais. Pareil ici.
Ouais.
Et pareil de l'autre côté, où il y a des vinyles. Et vous voyez que beaucoup de dos de vinyle ont été mangés par ce même teckel. Mais ça a toujours un lien avec la Russie.
C'était une méthode russe. Le teckel grignotait que des trucs russes.
Oui. Oh, wow. Donc j'ai pensé que...
Que quoi ?
Eh bien, qu'il parlait russe. Et qu'il savait choisir.
Et ?
Eh bien, j'ai appris que dans la colle russe, il y avait de la poudre d'os.
Non.
Donc, si vous voyez un livre dont la tranche est arrachée, vérifiez, sachez que
l'auteur.
C'est lié à la Russie.
C'est complètement fou, cette histoire.
C'est fou, non ?
Et c'est vieille ou précieuse, ou je sais pas, édition de Kafka en noir et doré, tout là-haut ? C'est quoi ?
Alors ça, c'est toute son œuvre, dans une édition très belle.
Ah oui.
Ouais, d'occasion. Kafka, il fait partie aussi d'un univers où je me suis plongée depuis longtemps. Et voilà.
Il y avait deux rayonnages sur lesquels on devait revenir.
Ah oui. Alors c'est important parce que c'est là, c'est des livres qui sont là pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tout ce que on a dit jusque là. C'est-à-dire que c'est soit des choses auxquelles je veux pouvoir avoir accès rapidement, comme ça.
Donc c'est les livres auxquels vous voulez pouvoir les attraper tout de suite.
Oui. Et puis je veux les lire, par exemple, donc je les mets visibles. Et puis, ils sont un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est des repères. Par exemple, Pasolini.
La rage.
La rage, et surtout, l'Orestie africaine. Alors, bon...
Oh, la pluie d'été.
Ouais, ça, c'est tellement...
J'adore.
Beau. Ouais, c'est trop beau, hein.
J'adore ce texte.
Les Brothers et les Sisters.
J'adore ce texte.
Et on le connaît moins, de Duras.
Ah, j'aime tellement.
Voilà, donc il y a un mélange de choses.
C'est le Shonagon.
Oui, aussi. Parce que beaucoup de choses sont liées aussi à... Comment dire ? C'est des vecteurs d'énergie, c'est des vecteurs de questionnement sur la langue, et donc la langue aussi de la musique, Par exemple, Célan, même si je ne l'ai pas choisi aujourd'hui, J'ai l'impression, quand je lis ce qu'il fait avec l'allemand, que c'est comme s'il travaillait un son et le passé de ce son. Et ça, j'ai l'impression qu'après, quand je joue, il y a quelque chose de différent dans mon son. Donc, dans cette bibliothèque, il y a beaucoup de liens avec le son, avec la musique, mais la musique, le bruit, quoi, pas juste la musique.
Et ça... Pourtant, vous dites souvent ça, Sonia Vidar-Atherton, qu'avant même la musique, c'est le son qui vous intéresse.
Oui. Il y a un texte sublime qui s'appelle « Ma réalité ».
De Giacometti.
Ouais, de Giacometti. Alors, il dit « Je fais certainement de la peinture et de la sculpture, et cela depuis toujours. » Donc, et je saute à la fin. Pour être le plus libre possible, pour tâcher de mieux voir, de mieux comprendre ce qui m'entoure, de mieux comprendre pour être le plus libre, le plus gros possible, pour dépenser, pour me dépenser le plus possible dans ce que je fais, pour courir mon aventure, pour découvrir de nouveaux mondes, pour faire ma guerre, pour le plaisir, pour la joie de la guerre, pour le plaisir de gagner et de perdre.
Eh bien.
C'est extraordinaire, non? Et ça, comme l'énergie qu'il y a là. Là, c'est tellement beau, Pasternak, Ma sœur la vie. Rien que de lire ça, je trouve qu'on se sent mieux.
Juste le titre, vous voulez dire.
Ouais. Bah, ça, c'est des choses que je lis par moment, quand j'ai plus le temps de rentrer. Les histoires de Jacob, de Thomas Mann, je peux pas en lire 2-3 pages, donc j'attends d'avoir plus le temps. Tsvetaeva, on va en parler, mais c'est, là-dedans, c'est, il suffit d'ouvrir une page et il y a un truc qui vous arrive qui est complètement remuant. Et je dirais qu'il y a, je me disais quand je regardais tout ça et que je pensais à ce qu'on allait partager, il y a beaucoup aussi d'un mouvement physique dans une bibliothèque, un saut. On va parler de Nijinsky, son saut là, est presque une obsession quoi, c'est tout le temps dans ma tête. Kafka, il parle du saut qu'il faut faire pour
en dehors du rang des assassins.
Exactement. Et qu'il est dans la vie et dans l'humour. Et c'est pas, on dit toujours c'est kafkaïen, il y a quelque chose de sombre et fermé. Souvent, les gens, quand ils disent Kafka, on a l'impression qu'ils s'enferment.
La dernière biographie a raconté l'inverse, d'un homme aimant et joyeux, et plutôt assez lumineux, et
oui,
drôle.
Oui, oui. Et même dans son écriture, l'humour... voilà, mais il savait pourquoi il fallait tellement tenir à ça. Et aussi, dans le rythme d'écriture... je me suis dit, tiens, il y a aussi une rivière du rythme rapide, une rivière que j'ai découverte pour la première fois avec Sylvia Plath. En fait, c'est le côté, dans cette bipolarité, très rapide, et hein, une sorte de chose de rapport à la vie complètement... où l'essence est tellement presque pure, comme l'essence de, je sais pas, de vous savez, l'essence qui fait qu'à Hanouka, il reste... Il va rester.
Non, c'est quoi?
Ouais. En fait, l'histoire de Hanouka, c'est qu'il dans un temple détruit, il reste une petite fiole
d'essence
qui va permettre,
d'huile
en fait, qui va permettre la continuation de la lumière.
C'est ce qui fait que ça repart, quoi.
Ouais. 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 Et donc, c'est des rythmes d'écriture qui ont une essence extrêmement forte et un rythme extrêmement particulier. Sylvia Plath avait ça. Nijinsky avait ça. Chantal Akerman avait ça. Et Nina Simone avait ça. Et moi, ça me fait imaginer des rondes de personnes que je mets ensemble par cette rythmique-là. Par ce rapport à la vie absolument qu'on a, que parfois, dans toute une vie, on n'y arrive même pas une fois. Tellement c'est une essence, quand je dis l'essence, c'est plutôt une essence de soi-même, quoi, ou une essence de son rapport avec
vous
ce qu'on veut dire.
Vous croyez que c'est si rare que ça?
Je pense qu'on peut tous les jours se poser la question de... Parce que tout est fait pour
le tasser,
le tasser et probablement qu'il faut aussi, parce que les destins de... voilà, c'est pas toujours facile, parce que ça vous mène très loin. Mais c'est dans l'écriture, par exemple, de Sylvia Plath, dans ce qu'on va lire, il y a quand même un rapport à l'écriture où des images viennent envahir le texte et vous raconter des choses qui vous laissent complètement comme ça. Enfin, j'ai pas de.
Voilà. En vous écoutant et en étant près de cette bibliothèque, déjà, je trouve qu'on s'y sent très très bien, Sonia Vidar-Atherton, et je me disais que, je sais pas, ça raconte quand même quelqu'un qui a une certaine fréquentation des livres. Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être important dans votre vie, quoi. Y compris cette organisation. Je veux dire, de les géographier comme ça, là. Ça a toujours été le cas ?
C'est une constellation, ça c'est vrai, de les géographier, vous avez raison. Et oui, je crois que oui, quand j'ai commencé à lire, alors peut-être c'est parce que tout de suite, ça m'a aidé à comprendre des choses que je ne comprenais pas du monde et de moi. Une de mes premières rencontres, disons, c'est Virginia Woolf. Par exemple, je ne me souviens pas de quand j'ai appris à lire ou quand j'ai lu la première fois. Aucun souvenir. Par contre, je me souviens qu'en découvrant, et c'était La traversée des apparences, ce livre-là, que je me suis dit, mais elle parle en fait de choses qui sont tellement là et que je ne sais pas toucher, je ne sais pas trouver en moi, que c'est comme si elle me disait, regarde, ouvre, comme ça. Et tout ce qu'elle disait, et même, je me souviens même de la souffrance de ne pas pouvoir voir quelqu'un qu'on a envie de voir. C'était la première fois que je le voyais exprimé dans la littérature. Alors, ça a été une de mes premières immersions. Du coup, j'ai beaucoup lu de Virginia Woolf. Après, il y a eu les romans russes. Donc, c'était beaucoup plus des plongées comme ça dans ce qu'on sait des romans russes. C'est bien après que j'ai pu comprendre plus de choses dessus, mais j'étais prise complètement. Est-ce que ça c'était une sorte de prémonition de mes études en Union soviétique quelques années plus tard, probablement. Après, il y a eu des choses, je me souviens d'avoir lu là une biographie d'Angela Davis. Je me souviens aussi de la lecture m'apprenant des tragédies du monde que j'ai apprises et découvertes plus par la lecture que l'école ou le lycée. Mmh. Des choses de découverte seule avec un texte où je me disais non, c'est...
Enfin, comme la condition noire aux États-Unis, par exemple.
Oui, alors j'ai grandi, enfin, j'étais petite là-bas et je savais des choses. Et puis, mon père nous racontait beaucoup de choses. Mais quand même, c'est comme ça aujourd'hui que je m'en souviens, c'est que c'est le texte qui m'a vraiment ouvert les yeux.
Est-ce qu'on va vers votre choix de 5 textes, justement, pour les lire et les commenter ?
Allez, on s'installe.
Red, nice and yellow, so I want you to be my fella.
France Culture.
On est bien pour le son.
Le Book Club.
Ouais, attention à tes câbles.
Est-ce qu'il y a assez de chaises ? Oui.
Dans la bibliothèque de Sonia Vider à Terton.
Ça tourne pour vous ? Ok.
Marie Richeux.
Donc, moi j'ai l'impression que ça, vous l'avez comme annoncé plusieurs fois, Nijinsky. Donc oui. J'aurais tendance à commencer par ça. Vous voulez nous dire pourquoi vous lisez Nijinsky et ce que vous lisez de Nijinsky ?
Alors, je lis une partie de ses cahiers. Et je pourrais dire après, pour qu'est-ce que j'y mets, parce qu'il y a autre chose... Ouais,
ou avant, comme vous voulez. D'accord, ok.
Un jour, j'étais dans les montagnes et je me suis retrouvée sur une route qui menait à une montagne. Je l'ai suivie et je me suis arrêtée. Je voulais parler sur la montagne car j'en ai senti le désir. Je n'ai pas parlé, car j'ai pensé que tout le monde allait dire que cet homme était fou. Je n'étais pas fou, car je sentais. Je n'ai pas senti de douleur, mais de l'amour pour les gens. Je voulais crier de la montagne vers la petite ville de Saint-Maurice. Je n'ai pas crié, car j'ai senti qu'il fallait aller plus loin. Je suis allée plus loin et j'ai vu un arbre. L'arbre m'a dit qu'ici on ne pouvait pas parler, car les gens ne comprennent pas le sentiment. Je suis allée plus loin. Je me suis séparée de l'arbre à regret, car il m'avait ressenti. Je suis partie. Je suis montée à la hauteur de 2000 mètres. J'y suis restée longtemps. J'ai senti une voix et j'ai crié en français « Parole !» Je voulais parler, mais ma voix était si forte que je ne pouvais pas parler. Et j'ai crié « J'aime tout le monde et je veux le bonheur. J'aime tout le monde, je veux tout le monde. » Je ne sais pas parler français, mais j'apprendrai si je me promène seule. Je veux parler fort pour qu'on me ressente. Je veux aimer tout le monde, c'est pourquoi je veux parler toutes les langues. Je ne peux pas parler toutes les langues, c'est pourquoi j'écris et on traduira mes écrits. Je parlerai français comme je peux. J'ai commencé à apprendre à parler français, mais j'ai été dérangée car les gens qui me croisaient s'étonnaient. Je ne voulais pas étonner les gens, c'est pourquoi j'ai fermé la bouche. Je l'ai fermée dès que j'ai senti. Je sens avant de voir. Je sais ce qui va arriver avant tout le monde. Je ne le dirai pas aux gens d'avance.
Alors, peut-être on en profite pour dire que ça a été traduit par Christian Dumelvovski et Galina Bogoyeva.
Voilà. Et alors, bon, ce livre, on voit, vous voyez mes fiches là, qu'il m'a fascinée. Et aussi, on voulait en faire quelque chose avec Chantal Ackerman. Il y a eu un moment donné où on avait un projet. Cette espèce de sortie, de jaillissement de lui, de ce rythme. Et de, il y a quelque chose dont je parlais tout à l'heure du... J'ai l'impression que c'est de la musique, mais une musique... quand il parle de l'arbre, j'ai l'impression que je m'arrête net. Et puis, il dit « je me sépare de l'arbre ». Il y a quelque chose d'absolument hypnotisant dans cette écriture. Mais il y a autre chose qui est, ce que je veux vous lire, qui va avec. C'est ça. C'est que, donc, on sait que Nijinsky a, en fait, a sombré dans un état qu'on appelait à ce moment-là la folie, qu'il était en Suisse et que... sa dernière danse a été dans un hôtel de Saint-Moritz pour un public d'aristocrates et de touristes. Et là, donc c'était en 1919, et il danse dans un des salons de Saint-Moritz. Et sa femme raconte, et elle dit « Il faisait vivre devant nos yeux toute une humanité souffrante et frappée d'horreur. C'était tragique, ses gestes avaient une dimension épique. » Comme un magicien, il nous donnait l'illusion de flotter au-dessus d'une foule de cadavres. Le public horrifié semblait frappé de stupeur, étrangement fasciné. Václav était comme l'une de ces créatures, irrésistibles et indomptables, comme un tigre échappé de la jungle, capable de nous anéantir d'un instant à l'autre. Donc j'en reviens au saut. Je me dis, cet homme, donc il a été... sa vie de danse s'est arrêtée. Sa tête a continué, son rapport au désir, à la langue, à l'expression a continué, malgré les hôpitaux psychiatriques, les crises, toutes les choses. Et puis, à la fin de sa vie, il y a cette danse dans cet hôtel où il raconte ce qu'elle décrit. Et je me dis, il faudrait que... Enfin, je vois les salons maintenant dorés d'un Trump, d'un Poutine, et je me dis, il faudrait qu'il y ait quelqu'un comme ça qui aille danser ces choses-là devant les gens. C'est d'une puissance inouïe. Et quand elle décrit le public et lui qui fait ça... Voilà, c'est que les récits du monde traversent les murs et vont se raconter quelque part.
Les percent même. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait dans la bibliothèque de quelqu'un beaucoup d'états de corps. Et vous avez parlé pas mal de ce saut-là, en parlant de plusieurs auteurs. Vous avez quoi comme rapport avec la danse? Parce que vous parlez souvent de votre rapport physique avec votre instrument. Parler des mains... corps entier, mais la danse.
La danse, j'aime la regarder quand quelque chose me passionne. Là, j'ai participé à un spectacle à la Philharmonie avec une chorégraphie de Ennio Greco. Et il y a des moments avec un danseur où c'est vraiment comme si il naissait de son bras un archet Et on avait une sorte de jeu de deux archets qui était inouï. C'était dans l'expression des corps, en fait. On se retrouvait dans le mouvement. Forcément, la danse et le travail sur le corps et ce à quoi on veut arriver, c'est forcément extrêmement...
Parce qu'au final, c'est comment on pourrait dire, je sais pas, j'aurais presque envie de dire, c'est éloquent que votre bibliothèque, que le choix de texte commence par un texte d'un danseur, quoi, et pas n'importe quel danseur, de Nijinsky. Et puis tout à l'heure, vous parliez des livres aussi comme ayant des énergies. Enfin, il y a quelque chose de très physique dans votre rapport à la lecture.
Mais je crois que c'est vrai. Et aussi de la force des mots, c'est-à-dire que j'ai toujours donné un pouvoir aux mots qui pouvait parfois être problématique. C'est-à-dire qu'il y a des mots que je n'arrivais pas à prononcer, encore maintenant. Ou des mots que j'ai l'impression que si je les prononce...
Ils ont une action.
Ils ont une action, voilà. Donc les mots sont très vivants, d'où la force d'un endroit comme ça. Mm. Parce que les mots, en fait, ils sautent des livres et pour moi, ils viennent, quoi. Ils vivent, ils tournent, ils vont d'un livre à l'autre. Ça, c'est très fort. C'est ce qui m'a apparu ces derniers temps quand j'ai rangé là, ce qui ne m'était quand même pas arrivé depuis des années. Du coup, c'est de me rendre compte qu'il y avait des rencontres de livre en livre, de texte en texte, des fluides, en fait.
Ça, c'est le plus beau, c'est une des choses les plus belles, quand même, avec la littérature. Deuxième extrait.
Sylvia Plath.
Si ça vous va, ça vous parle comme ordre d'aller vers Sylvia Plath ?
Ah ben, un peu.
Tout à l'heure, vous avez dit que ça avait été un... C'est à propos de Sylvia Plath que vous avez dit que c'était un moment important de votre vie, enfin, très, très identifié ?
Mais oui, parce que j'ai découvert d'abord les lettres à sa mère, à travers la pièce « Letters Home ». Joué par Coralie et Delphine Seyrig. Et ce désir d'embrasser le monde, de comprendre, de progresser, d'être reçue, d'aller vers ce qu'elle avait le plus envie au monde, c'est-à-dire l'écriture, d'être enfin publiée, tout, cette excitation, ce désir, cet appétit de vie m'a beaucoup frappée. Mais en même temps, j'ai bien vu qu'il y avait l'autre côté de la médaille, que... Et c'est là, encore une fois, cette dualité qui m'a beaucoup frappée et qui m'a probablement aidée dans des questionnements sur moi-même.
Vous avez quel âge quand vous découvrez ?
Là, je devais avoir... c'était avant d'être... C'est toujours mon marquage du temps, c'est qu'à 19 ans, je suis partie en Union soviétique. Donc, je sais ce qui était avant et après, parce que sinon, je m'en mêle beaucoup dans les âges et le temps, parce que j'ai une notion du temps très... qui va dans, comme ça, horizontal et vertical. Et donc, c'était avant, donc je devais avoir, je sais pas, 16 ans,
oui,
17
jeune.
Ans.
Jeune, ouais.
Aussi, le premier rapport avec le fait de mettre fin à sa vie. Je savais pas que je retrouverais ça souvent très proche de moi. Et c'était la première fois. Et après, quand j'ai découvert son poème « I've done it again » d'Anne Lazare,
Je le connais pas.
C'est le poème où elle parle du suicide. Mais elle parle aussi de vie, et elle se moque des médecins, et elle est presque provocante. Et elle dit... En fait, c'est fou, parce qu'elle dit « I have done it again », je l'ai refait, comme si c'était une chose qu'on pouvait faire plein de fois dans sa vie. Ce qui, en fait, est une sorte de c'est un pied de nez au suicide, puisqu'elle dit « je l'ai refait ».
Presque,
oui, c'est une insolence. Et de découvrir un geste comme ça à travers Sylvia Plath, c'est extrêmement puissant. Même si après, quand on se rapproche du désespoir de la fin, mais aussi les poèmes qui sortaient dans la fin de sa vie. Et encore maintenant, c'est quelque chose, c'est une notion. Par exemple, il y a un poème sur sa mère, où elle est d'une violence pour s'extirper de ce qu'une mère peut faire. Alors les gens disent quand même, elle aimait pas son père, elle aimait pas sa mère. Mais bien sûr qu'elle adorait sa mère, qu'elle a écrit toute sa vie à sa mère, que sa mère l'adorait. Mais c'est pas de ça qu'elle parle. Elle parle de ce que c'est que ce que peut faire cet arrachement ou cet envahissement de la mère à une fille. Donc c'est au-delà de la petite histoire de Sylvia Plath et de sa
bien
maman.
Sûr.
Sylvia Plath, quand le poème Daddy sur son père, elle parle du nazisme, elle parle des bottes, elle parle des sons, mais c'est parce que c'est ce dont elle a peur et elle s'en saisit avec les mots et les images d'une manière tellement puissante. Ça m'a placée ailleurs dans la vie.
Alors, vous avez choisi quoi ?
Alors j'ai choisi dans Trois femmes, donc c'est une pièce pour trois voix, où elle parle de mettre au monde, mais aussi on va voir de la vie, enfin de tout autour. Enfin, je décris pas, je lis. Donc première voix. Je suis lente comme la terre. Je suis très patiente. J'accomplis mon cycle. Soleil et étoiles me regardent avec attention. La sollicitude de la lune est plus personnelle. Elle passe et repasse, lumineuse comme une garde malade. Regrette-t-elle ce qui va m'arriver ? Je ne le pense pas. Elle est tout simplement étonnée devant la fécondité. Quand je sors, je suis un grand événement. Je n'ai pas besoin de penser ou même de me préparer. Ce qui se passe en moi aura lieu de toute façon. Le faisan se dresse sur la colline, il lisse ses plumes brunes. Je souris malgré moi à tout ce que je sais. Feuilles et pétales m'accompagnent. Je suis prête. Ça, c'est la deuxième voix. J'ai eu mes chances, j'ai essayé et encore essayé. J'ai cousu la vie dans moi comme un organe rare. J'ai marché attentivement avec précaution comme un objet rare. J'ai essayé de ne pas trop penser. J'ai essayé d'être naturelle. J'ai essayé d'être amoureuse aveuglément comme les autres femmes, aveugle dans mon lit avec mon cher aveugle, ne cherchant pas dans l'obscurité profonde le visage d'un autre. Je n'ai pas cherché, mais le visage était encore là, le visage de celui à naître qui s'aimait déjà dans sa perfection, le visage du mort qui ne pouvait être parfait que dans sa paix facile et qui ne pouvait être sain qu'ainsi. Et puis, il y avait d'autres visages, les visages des nations, des gouvernements, des parlements, des sociétés, les visages sans visage des hommes importants. Ce sont ces hommes qui me gênent. Ils sont si jaloux de tout ce qui n'est pas plat. Dieu jaloux. Ils veulent que le monde entier soit plat parce qu'ils le sont, eux. Je vois le Père qui parle avec le Fils. Une telle platitude ne peut être que sainte. Ils se disent, il nous faut créer un paradis. Lessivons et aplatissons le relief de ces âmes. Et la première voix, à nouveau, avec cette dernière phrase que j'aime par-dessus tout. Combien de temps pourrais-je être un mur, protégeant du vent ? Combien de temps pourrais-je atténuer le soleil de l'ombre de ma main, intercepter les foudres bleues d'une lutte froide ? Les voix de la solitude, les voix de la douleur cognent à mon dos inlassablement. Cette petite berceuse, pourra-t-elle les adoucir ? Combien de temps pourrais-je être mûre autour de ma propriété toute verte ? Combien de temps mes mains pourront-elles être un bandage à son mal et mes paroles, colibri étincelant, pourront-elles continuer à la consoler ? C'est une chose terrible que d'être si ouvert, comme si mon cœur se faisait un visage et faisait son entrée dans le monde.
C'est un long poème qu'elle écrit en 1962. Sylvia Plath se donne la mort en 1963. Et il y a trois voix, c'est ça ?
Mm-hmm.
Et trois voix d'une seule femme ou trois femmes ? On ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
J'aime bien penser que c'est une seule femme à différents moments, mais on ne sait pas.
Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette dernière phrase que vous aimez ?
Alors...
Que d'être si ouvert.
Oui, c'est une chose terrible que d'être si ouvert. Mmh. Ça rejoint aussi ce que je disais quand j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, dans une vie, forcément, on tasse un petit peu. Ça se dit pas, ça se fait pas, ça, puis ça devient tout doucement, ça se pense pas, quand même. Et cette ouverture, c'est une sorte de chose de réception des choses, de mettre, c'est une chose terrible que d'être si ouvert, ça fait vibrer quelque chose de très fort, comme si mon cœur se faisait un visage. Et du coup, le cœur devient le personnage, sort du corps et fait son entrée dans le monde. C'est une vision pour moi et d'une telle force. Et ce que je dans les extraits là, il y avait celui-là. J'ai cousu la vie dans moi comme un organe rare. Ça veut dire que pour pouvoir dire ça, c'est qu'elle a ressenti ce que c'était que la vie qui quitte l'organe, puisqu'elle cousue.
Pour que ça tienne.
Pour que ça tienne, ouais. Et puis, cette échappée, quand tout d'un coup, alors ça, c'était dans lequel... Elle parle du visage, de son visage, du visage de l'enfant à naître, le visage du mort, toute cette espèce de... Tout d'un coup, comme une ronde, encore une fois, où tous ces visages se donnent la main, que celui qui n'est pas encore né est déjà mort, et en même temps, c'est le sien, et c'est celui de l'enfant, et c'est presque comme une... comme une ivresse d'image, là. Et puis... La danse va tellement loin qu'elle part de ces visages et puis elle dit il y a d'autres visages et on se dit mais quels visages et les nations et les gouvernements et les parlements et les sociétés, les visages sans visage des hommes importants. Et là tout d'un coup elle vous amène dans une chose politique dans le sens
concret du terme.
Oui. Dans un monde qui est dirigé par ces hommes importants sans visage.
Des
en tout cas
jaloux.
Sans yeux. Sans visage donc sans yeux. Et donc, ce qui leur permet de tuer, en fait, de détruire. Et c'est vraiment ce pouvoir-là des hommes sans visage qui fait face aux âmes. Vous voyez, ce à quoi ça parle.
Et au cœur devenu visage. Mais quand même, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, Sonia Vidar-Atherton, a à voir avec le fait d'être, on le dit comme on veut, je ne sais pas, ouvert à l'existence, sensible à ce que c'est qu'être vivant, être capable comme ça de voir la vie comme une essence. Et avec l'espèce de la double face de la médaille, quoi, ce que ça coûte et ce que ça permet. Mais pour faire la musique que vous faites depuis des années, c'est bien que vous l'avez gardé ouvert, votre cœur. Vous ne pourriez pas faire la musique que vous faites en ayant complètement tassé le truc.
Ah, mais moi, je ne parle pas du tout d'avoir tassé, bien au contraire. Je pense que je n'ai pas du tout tassé. Et que je crois que ces voix-là, c'est des voix qui sautent, quoi, qui traversent. Et on revient au saut de Nijinsky, au saut de Kafka, de... Elle aussi, c'est quand même la grande découverte, je trouve, de la vie, c'est de se dire ou d'essayer de comprendre comment nous, les hommes, les femmes, hein, pouvons faire ce qui peut se passer, enfin ce qui se passe. Qu'est-ce qui va dire stop? Qu'est-ce qui va dire mais regardez ce qui se passe? Ce sont ces voix-là. C'est ces voix-là qui questionnent et qui disent les choses avec cette puissance-là.
Ça pourrait être une transition vers Marina Tsvetaeva.
Ah oui.
Hein, je sais pas, comme ça. Ou vers Grossman. Parce que c'est aussi une voix qui dit, quand même. C'est vous la chef, c'est votre bibliothèque.
Oui, allez, Marina Tsvetaeva et après Grossman.
Alors, qu'est-ce que vous lisez de Marina Tsvetaeva?
Alors, Mon Pushkin, qui avait disparu en plus, qu'on ne trouvait plus. Et puis, c'est un texte sur le rapport de Tsvetaeva à Pushkin. Et là aussi, il y a quelque chose que j'ai découvert. C'est tout au début. Et voilà, je vous lis. Ça commence comme un chapitre du livre de chevet de nos mamans et de nos grands-mamans, justement. Jane Eyre, le mystère de la chambre rouge. Dans la chambre rouge, une armoire mystérieuse, mais avant l'armoire mystérieuse, autre chose. Un tableau dans la chambre de ma mère, le duel. La neige, les branches noires des arbustes, deux hommes tout noirs qui en raccompagnent un troisième, ils l'ont pris sous les aisselles, jusqu'au traîneau, et un autre encore, de dos, qui s'en va. Pushkin, celui qu'on emmène. Dantès, celui qui s'en va. Dantès a provoqué Pushkin en duel, c'est-à-dire qu'il l'a attiré sur la neige, et là, près des arbustes noirs et nus, il l'a tué. Sur Pushkin, j'ai d'abord appris qu'on l'a tué. Après, j'ai appris que Pushkin est un poète et que Dantès est un Français. Dantès a détesté Pushkin parce qu'il n'arrivait pas à faire des poèmes. Il l'a provoqué en duel, c'est-à-dire qu'il l'a attiré sur la neige et il l'a tué, un coup de pistolet dans le ventre. J'avais 3 ans. Je comprenais que le poète a un ventre et je pense à tous les poètes que j'ai pu connaître, ce ventre, qui est souvent mal nourri et dans lequel on a tué Pushkin, je ne m'en souciais pas moins que de son âme. Le duel de Pushkin a fait naître en moi la sœur. Je dirais plus, il y a quelque chose de sacré pour moi dans le mot « ventre ». Même le plus simple mal au ventre m'emplit d'une compassion bouleversée qui exclut tout humour. Ce coup de feu, c'est nous tous qui l'a blessé au ventre. Pouchkine fut mon premier poète, et mon premier poète, on l'a assassiné. Depuis, oui, depuis que sous mes yeux on assassinait Pouchkine dans le tableau de Naoumov, on l'assassinait chaque jour, à chaque instant, on l'assassinait sans cesse, dans mon enfance, dans mon adolescence, plus tard encore j'ai divisé le monde entre la foule et le poète, et j'ai choisi de protéger le poète, défendre le poète contre la foule, quels que soient les habits de la foule, quelles que soient ses dénominations. Mmh. Voilà, c'est fort, hein. Et elle a 3 ans, et je suis sûre que c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, je la vois. Et elle découvre ce tableau, c'est tellement imagé, je la vois dans cette chambre, et voir en plus le tableau qui devait être accroché là, qui aurait pu être complètement oublié à peine. Hein, et il va lui révéler l'endroit, le ventre. Et je trouve c'est extraordinaire parce que c'est à la fois tellement physique, tellement concret, et en même temps ça ouvre sur tout. Bah.
Et en même temps c'est un projet politique et littéraire, ensuite de séparer le poète de la foule. Et quels que soient les habits de la foule, et de décider de défendre le poète contre la foule.
Et c'est ce qu'elle a fait dans sa vie. Mmh. Elle avait des liens avec les gens, c'est-à-dire qu'elle avait des amours, des passions, des correspondances, des inspirations, des désirs. C'était ça en permanence. C'était assez chaotique. Et ce qui est fou, c'est que tout ce qu'elle exprime, c'est pour ça que j'aime tellement Vivre dans le feu, ce livre que j'ai mis dans là, que je vais chercher parce que. Parce que où que ce soit, on ouvre la page et elle vous dit quelque chose, elle dit quelque chose sur le siècle. Attends, ça, il faut que je vous le lise.
Et c'est un texte autobiographique de Marina Tsvetaeva ?
Oui, c'est. Alors, c'est Todorov qui a fait un. Non, c'est des carnets qui ont. Je crois qu'ils sont. Il a pris et édité toute une partie, mais pas tout, parce que c'est énorme. Mais elle écrit ça. L'époque n'est pas contre moi personnellement, mais passivement. Moi, je suis contre elle activement. Je la déteste, ne peux pas la voir. Elle ne me voit pas. C'est comme une boule de force qui est complètement concentrée. Et on l'ouvre, vous savez, comme l'été parfois japonais. Et il se souvient. Mais là, si on pense à tout ce qu'elle dit en 4 phrases, et comme elle était très drôle, ça je veux vous lire, parce que je veux qu'il y ait des choses drôles aussi.
Mais il y en a, ne vous inquiétez pas.
Oui,
il y en a déjà.
Chantal va être très drôle, Chantal Ackerman. Vous me demandez pourquoi je rime. Elle écrit parce qu'elle écrivait beaucoup, cher monsieur. Non. Vous me demandez pourquoi je rime. Je suis chrétien. J'ai un petit chien qui mange du pain tous les matins. Et si je vous avais dit je suis baptisée, j'ai un petit chien auquel je donne à manger tous les jours, ça ne dirait rien. Ni à lui, ni à personne. Ce serait rien. Et voici que cela est. Voici, monsieur, pourquoi je rime. C'est pas extraordinaire? Et ce livre, chaque fois qu'on tourne la page, tu vois, il y en a partout c'est des fulgurances. Voilà, c'est une femme de fulgurance.
Rappelez le titre?
Ça, c'est Vivre dans le feu. Et bon, et il y a sa poésie, évidemment, c'est encore différent. Ça aussi, d'ailleurs, c'est une chose qui m'a beaucoup appris par rapport au rythme d'un texte. Alors, je reviens à la musique, mais quand on travaillait à Sylvia Plath avec Charlotte Rampling, on avait voulu mélanger la poésie et les lettres. Et en fait, ça ne marchait pas parce que c'est...
Deux territoires différents.
Oui, voilà. Ouais. Et chez Tsvetaeva, il y a toute une partie de lettres, toute cette partie-là, où elle met quand même des poèmes, parce que c'est en elle et elle ne peut pas s'en empêcher. Mais, bon, d'ailleurs, pourquoi elle s'en empêchait? Mais c'est surtout ce que je vous ai lu, comme ça, puis c'est les récits de tout ce qui lui arrive, et on voit avec tant d'humour, mais aussi le terrible, puis la perte de sa fille, la famine, enfin, c'est pas... C'est encore un autre rythme que dans la poésie, où là, elle va vraiment très, 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 très loin. Voilà.
Vous avez lu Mon Pouchkine dans la traduction de André Markovitch.
Ouais.
Texte de... qu'on date autour de 1937, Mon Pouchkine. Vous avez évoqué Chantal Akerman. Vous voulez y aller ou vous voulez aller vers Grossman?
Ah non, je peux lire Chantal Akerman, Le déménagement. Texte que j'ai toujours adoré. Qui a été édité depuis peu, puisqu'il fait partie de l'œuvre écrite et parlée. Et qui a été joué. C'était au départ un monologue pour Samy Frey. Elle l'a filmé. Mais de le lire en texte, c'est vraiment être dans le rythme et dans le... Vraiment dans ce... Bon, encore une fois, je ne décris pas, je lis. C'est le plus dur à lire, celui-là. Probablement aussi parce que le rythme de Chantal, vraiment quelque chose avec la ponctuation, quelque chose qui doit... Au départ... Il y a quelque chose d'une complexité rythmique que vous allez entendre. J'aurais jamais dû déménager. Qu'est-ce qui m'a pris? J'étais bien dans l'autre, presque. Non, le plus souvent j'étais mal, pas bien. Fallait déménager. Sauf une fois, un été, l'été 82, j'ai été bien. Toutes fenêtres ouvertes, un léger courant d'air, le rire des trois filles d'à côté, elles venaient d'emménager, des étudiantes. Le matin, le réveil, l'air encore frais, rien. Aucune langueur, l'envie de se lever, d'être là, un homme debout. Leur rire me portait. Une douche froide, un pantalon léger, un peu large, une chemise entrouverte, pieds nus, je vivais. Un geste, un autre, un disque, le bruit de quelques pas dans la rue, très peu. Une voix qui dit « Je pars à la mer demain ». J'ai la gorge serrée. C'est tellement beau. Une lettre d'un ami. Viens me voir en Italie. Nous parlerons. Content de la lettre. De tout dans cette lettre. J'irai pas en Italie. À cause des rires qui me portaient. Les trois filles. Il y avait une Juliette, une Béatrice, une Élisabeth. Juliette, Élisabeth, Béatrice. Je les aimais toutes les trois d'un amour immense. C'est Juliette qui m'a dit ou éclairé un matin à propos de l'âme. Le matin, je sortais sur le palier pour le courrier. Juliette aussi. Elle attendait une lettre, certainement. Cette maison a vraiment une âme, elle a dit. Oui, j'ai dit. J'étais influençable à cause de l'amour immense et de la robe rouge en coton de Juliette. L'âme des couloirs sombres et sales, avec peinture qui craque, avec ascenseur en panne. L'âme. Elle l'a dit avec une sorte de jubilation, un soupir de plaisir. Moi, jusque-là, j'avais pensé le contraire. Cette âme-là me dérangeait. J'aurais préféré un peu moins d'âme. Ce jour-là, pas. Ce jour-là, j'étais d'accord avec elle. J'ai bien dû admettre qu'il y avait de l'âme qui traînait et que cette âme-là me faisait soupirer d'aise comme elle. J'en étais encore tout pénétrée quand je suis rentrée dans mon appartement. Il avait lui aussi ce quelque chose en plus. Tout simplement, un supplément d'âme, toutes fenêtres ouvertes, cet été 82, où trois étudiantes en sciences humaines avaient aménagé juste à côté. L'une en robe rouge, Juliette. J'ai bien fait de ne pas lui avoir parlé de sa robe rouge à Juliette. On ne parle pas de robe à quelqu'un qui a l'âme en tête. Ce n'est pas de circonstance. Ni de la lettre qu'elle attendait, certainement. Parler d'une lettre aurait déjà été plus de circonstance avec l'âme, mais je ne voulais pas à cause de l'attente. Moi aussi, j'avais de l'âme. Je pars demain à la mer, avait dit cet homme d'âge moyen. Je ne sais pas si c'était son ton, le rythme, ni lent, ni rapide, la voix de cet homme qui m'avait émue, ou bien les deux mots mis l'un à côté de l'autre, à la mer, demain, demain à la mer. J'étais dos à la fenêtre quand c'est arrivé. Je regardais ailleurs. J'embrassais du regard l'appartement. Cela m'a pris par surprise. Toute la phrase. Je pars à la mer demain. J'espérais vraiment qu'il allait partir. J'espérais pour lui. Cet espoir-là venait aussi de l'âme. J'étais profondément reconnaissant envers Juliette d'avoir soulevé cette question. Reconnaissant et fou d'amour. L'un n'allait pas sans l'autre. S'il avait dit « Je pars demain à la campagne dans ma famille », campagne est obligatoirement suivie de famille, j'aurais détesté. Je déteste les gens qui ont de la famille à la campagne. C'est comme ça. Moins, je déteste moins les gens avec famille à la mer ou à la montagne.
Ce que j'aurais aimé juste une fois, c'est que quelqu'un dise « Je pars demain ou même la semaine prochaine, dans ma famille, dans le désert ou sur la banquise. » C'est quand même très drôle.
Ouais, c'est quand même très drôle. C'est marrant, il dit avoir de l'âme comme un rhume ou un vêtement ou un truc solide. J'aurais préféré moins d'âme.
Moins d'âme. Mais vous savez, ça me fait penser à Richter qui disait qu'en fait, il disait un peu ça, je crois. Qu'il préférait jouer sur des Yamaha parce que les Beckstein, les Steinway avaient trop d'âme quelque part. Il disait ça, que sur un Yamaha, bon, c'était des pianos les meilleurs que Yamaha peut faire, réglés à son goût et tout ça, mais il y avait une sorte de, entre guillemets, neutralité. Ouais. Il n'y avait pas le supplément d'âme, il voulait le mettre lui-même, en fait. C'est fascinant. Et là, vous voyez, ce qui est frappant, c'est... il y a quelque chose de douloureusement beau et en même temps comique, c'est-à-dire que c'est, y a, dans l'écriture de Chantal Akerman, il y a cette rythmique et il y a ce qu'elle appelait cette chose à plat toujours. C'est-à-dire qu'il y a, quand elle dit, par exemple, bon, je vais donner un exemple, un pantalon léger, un peu large, une chemise entrouverte, pieds nus, je vivais. Un geste, un autre, un disque, le bruit de quelques pas dans la rue, une voix qui dit « je pars à la mer demain ». Et ce que je trouve qu'on sent là, et ça me fait même penser à Jeanne Dielman, c'est-à-dire que là, c'est la vie qui se met en marche. C'est-à-dire que quand on arrive à se lever, quand on arrive... Donc elle décrit cette espèce de chose, il n'y a pas de langueur, il n'y a pas le poids qui vous tire. L'homme met sa chemise, il remarque qu'il boutonne que trois boutons, qu'il y a un souffle de vent, qu'il se sent bien, qu'il y a... Elle décrit que dans la rue, voilà, le bruit de quelques pas dans la rue, très peu. Donc comme on entend l'acuité de son oreille, et en fait, presque comme si elle disait, mais là, je suis en train de vivre.
Là, ça va.
Je suis un homme debout. Je suis en train de vivre, là, ça va. Ouais. Et donc, en fait, il y a dans la succession des gestes, dans Jeanne Dielman, cette chose-là. Je vis parce que je suis en train de fermer la porte, de lire une lettre, d'aller faire une recette, d'attendre mon fils, de lire une lettre d'un courrier qui vient d'arriver d'Amérique. Et en fait, ça, c'est ça, pour moi, c'est réapprendre à vivre après le non-racontable. Mmh. C'est-à-dire la projection, ce qui est la planification de destruction, survivre. Ça, c'est la description dans un éclat de rire de ce que c'est que de survivre. C'est ça qui je trouve bouleversant. Et tout ce texte, il y a ça. C'est entre les lignes, mais c'est dit avec cet humour et cette légèreté. Et puis le jeu sur les trois, le fait d'aimer les trois, c'est comme quand elle dit dans « Demain, on déménage ». Elle parle à une jeune femme qui est là et elle dit « Vous êtes amoureuse de quelqu'un en particulier ?»« Ah non, c'est un sentiment général. » C'est extrêmement drôle, et
bah,
c'est
ça. Sûr.
Et en même temps, ça dit beaucoup aussi sur le... Ça
dit beaucoup sur...
Bah, sur le... En fait, de questionner le monde tout le temps, de dire, mais en fait, c'est quoi d'être amoureux? Ah, donc, il y a trois femmes, en fait, je suis amoureux des trois, totalement. Et puis, il y en a une qui a l'âme, il y a l'autre qui a la politesse, il y a l'autre qui a l'humour.
Et on ne parle pas de sa robe rouge à quelqu'un qui a l'âme en tête.
Voilà.
Ce n'est pas approprié.
Voilà.
On aurait comme plus de temps pour aller vers Grossman. Est-ce que c'est un grand regret? Oula.
Pour
ça
Grossman,
a l'air d'être un grand regret.
Bah oui, mais en même temps, c'est un long sujet parce qu'il y a une question qui m'obsède dans le Grossman. C'est Tout passe, quasi son dernier roman. Et c'est l'histoire d'un homme qui revient après 30 ans de goulag et qui va croiser dans la rue celui qui l'a dénoncé. Bon. Ça parle aussi de la dénonciation et de ces millions de gens qui n'ont jamais rien fait, qui ont été dénoncés sans avoir rien fait. Et le camarade, tout le monde sait, parce qu'en fait, il n'y a même pas à dire, tout le monde sait. Et que là, c'est en train de se reproduire exactement pareil. J'ai vu de mes propres yeux quelqu'un qui avait un panneau qui disait qu'il était pour la guerre, qui s'est fait attraper autant que celui qui disait non à la guerre. C'est-à-dire qu'on enferme. Et là... Ce qui est extraordinaire, c'est le moment où celui qui a dénoncé pense que celui qui a été donc 30 ans dans les camps sait que c'est lui le dénonciateur. Mais il réalise qu'il ne le sait pas. Et il s'en veut de s'être ému. Et Il dit que ça réveille le monstre de l'inquiétude en lui. Il dit, mais j'ai peut-être été qu'un monstre toute ma vie, et comment j'ai pu. Et il est remué parce que l'autre le regarde avec des yeux tellement doux, et sans l'accuser, mais en le laissant face à son ignominie, en fait. Il ne l'aide pas, il ne lui parle pas. Donc l'autre est tout seul avec son ignominie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte d'un restaurant, il va marcher sur la moquette épaisse, il voit les lustres, il voit les garçons de café qui l'accueillent, enfin les serveurs plutôt. Il s'assied, il regarde le menu, il hésite entre, là je vous dis de mémoire, hein, mais entre tel plat merveilleux et tel plat merveilleux. Et le serveur voit qu'il hésite entre ça et ça, donc il lui dit tout de suite, la viande aujourd'hui est extraordinaire. Et il dit, je vais prendre de la viande, et toute cette angoisse s'en va. Et voilà, et je me dis, ce moment-là, c'est le moment où on s'endort et on s'arrange des choses. Et j'avais envie de dire ça parce que c'est extraordinaire. Mais voilà, je l'ai raconté. Certainement mille fois moins bien que lui, mais avec l'émotion de chaque fois que je le... Enfin, ouais, de la force de ça. Et Grossman, ce qui est aussi extraordinaire dans son destin, c'est qu'il a... C'est comme si tout ce qu'il écrivait, il se rapprochait d'une vérité. Et jamais il juge, parce que ce qu'il sait, et ça aussi, c'est, je me dis qu'on doit tous les jours se le dire, on est tous capables de glisser. Et donc, quand il étudie dans ce même roman tous les dénonciateurs et leurs profils, il ne s'exclut pas.
Voilà. Merci beaucoup, Sonia Vidar-Atherton, de nous avoir ouvert votre bibliothèque.
Merci à vous de votre visite.
Pour réécouter les textes choisis et lus par Sonia Vidar-Atherton, vous pouvez vous rendre sur le site franceculture.fr à la rubrique du Book Club, et vous retrouverez aussi tous nos portraits de bibliothèque. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et à Colin Gruel qui réalise cette émission, et à Romain Lenoir qui signe le mixage. Au revoir Sonia. Vous écoutiez le générique.
J'ai pas entendu, mais j'ai bien compris qu'il y avait une cachotterie là-bas.
C'était le générique fin, quoi.